Chapitre 48. Jésus nourrit 1000 hommes et guérit lors du sabbat. Et il advint, alors que Jésus enseignait les foules et que les gens qui souffraient de la chaleur de la journée commençaient à avoir faim, qu'une femme passa avec un chameau chargé de melons et d'autres fruits. Et Jésus éleva la voix et dit : « Oh, vous qui êtes assoiffés, cherchez l'eau vivante qui vient du ciel, car ceci est l'eau de la vie, et celui qui la boit n'aura plus jamais soif. » Et il prit 5 melons et les distribua au peuple, et ils mangèrent, et leur soif fut apaisée. Et il leur dit : « Si Dieu fait briller le soleil et remplit d'eau ses fruits de la terre, ne devrait-il pas être lui-même le soleil de vos âmes et vous remplir avec l'eau de la vie ? Cherchez la vérité pour que vos âmes soient apaisées. La vérité de Dieu est l'eau qui vient du ciel, qui ne coûte rien et n'a pas de prix, et ceux qui en boivent seront satisfaits. » Ceux qu'il rassasia étaient 1000 hommes, femmes et enfants. Et personne ne retourna chez lui en ayant encore faim ou soif. Et beaucoup de ceux qui avaient la fièvre furent guéris. À cette époque, Jésus traversa un champ de blé, et c'était un jour de sabbat. Et ses disciples, ayant faim, commencèrent à glaner des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Vois, tes disciples font quelque chose qui, d'après la loi, ne doit pas se faire pendant le sabbat. » Jésus répondit en disant : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsque lui et ses compagnons eurent faim ? Comment il alla dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que seuls les prêtres avaient le droit de manger, mais pas David ni ceux qui l'accompagnaient ? Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que les prêtres travaillent dans le temple, le jour du sabbat, sans être punis ? Mais moi je vous dis qu'en ce lieu, il y en a un qui est plus grand que le temple. Cependant, si vous aviez reconnu ce que veut dire « Je veux de la compassion et non des sacrifices », vous n'auriez pas condamné les innocents. Le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. »
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Le récit des melons signifie que celui qui vit en Dieu et donne à partir de la vérité éternelle recevra aussi de la vérité éternelle. Ni l'âme, qui ne vit que par la force de Dieu, ni l'homme, qui reçoit sa nourriture terrestre de la force de Dieu, n'auront faim ou soif. Avoir pitié, c'est plaindre. Celui qui ne fait que plaindre son prochain renforce l'auto-apitoiement de celui-ci. C'est pourquoi le mot « avoir pitié » devrait être pris dans le sens de compassion. L'homme qui peut accepter son prochain tel qu'il est, qui peut accueillir au fond de son cœur son être spirituel issu de Dieu, ne le rabaissera pas en s'apitoyant sur lui et en le plaignant. Il ressentira ce que son prochain ressent, c'est-à-dire qu'il aura de la compassion à son égard et reconnaîtra en même temps ce dont il aura besoin. Il l'aidera de façon désintéressée et lui donnera selon ses possibilités. C'est le sacrifice le plus beau, le plus juste, qui plaît à Dieu. Par contre, celui qui s'érige en juge au-dessus de ses prochains les condamne. L'homme qui s'exerce à la justice place la justice avant le droit, car la justice, c'est Dieu. Le droit émane des hommes. »
Il continua son chemin et arriva à leur synagogue. Et là, il y avait un homme dont la main était desséchée. Afin de pouvoir l'accuser, les docteurs de la loi et les pharisiens lui demandèrent : « Suivant la loi, est-il permis de guérir pendant le sabbat ?» Et il leur dit : « Y en a-t-il un seul parmi vous qui, ne possédant qu'un seul mouton, et celui-ci tombant dans un fossé le jour du sabbat, le laisserait là sans aller le chercher ? Et si vous aidez un mouton, pourquoi n'aideriez-vous pas un homme qui souffre ? C'est pourquoi La loi permet de faire le bien le jour du sabbat. Ensuite, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, et elle redevint comme l'autre. Et les pharisiens sortirent et complotèrent contre lui, pour savoir comment ils pourraient l'anéantir. Mais lorsque Jésus s'en aperçut, il s'en alla avec ses disciples. Une foule de gens le suivaient, et il guérissait leurs malades et leurs infirmes, et il leur demanda de ne pas le faire savoir publiquement.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. En tant que Jésus, j'ai guéri beaucoup d'hommes. Cependant, il y en eut également beaucoup que je ne pus aider. Certains reçurent de l'aide au moment où ils prirent conscience de leur vie pécheresse. Cependant, quand ils reprirent leur vie quotidienne, ils répétèrent leurs fautes passées et la maladie réapparut. Car en celui qui commet à nouveau des péchés, à l'origine d'une maladie, réapparaît ce qui était déjà en train de se transformer dans l'âme. L'ancienne souffrance, la maladie. Les docteurs de la loi et les pharisiens virent et entendirent ceci. Ils s'en servirent comme prétexte pour monter le peuple contre moi, en disant que j'étais un charlatan qui trompait le peuple et qui avait pactisé avec le diable. Et ils racontèrent à peu près ceci. Si ce Jésus était divin, ceux qui ont été apparemment guéris le resteraient. Mais il ne fait que des tours de passe-passe pour mettre la foule de son côté. C'est Satan. Et il disait, il propage une hystérie de guérison parmi le peuple et dépose des forces invisibles sur les plaies. Quand l'hystérie dite de guérison est passée, qu'ils expliquaient comme étant de l'hypnose, ceux qui sont apparemment guéris doivent se rendre compte qu'ils souffrent encore de leurs anciens maux. De tels discours diffamatoires, et d'autres encore, de la part des docteurs de la loi et des pharisiens d'autrefois, se répétèrent pendant toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, au grand changement d'air, il se passe quelque chose de similaire à ce qui se passait lors de ma venue sur terre. Les pharisiens et les docteurs de la loi, aujourd'hui les autorités intellectuelles ecclésiastiques et leurs subordonnés, calomnient ceux qui me suivent, moi le Christ, et s'efforcent de vivre une vie véritablement chrétienne, d'aider leurs prochains avec désintéressement, et de proclamer la bonne nouvelle de l'arrivée imminente du royaume de Dieu.
Et ce que Isaïe avait dit s'accomplit. Regardez mon serviteur, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme se complaît. Je verserai mon esprit sur lui, et il apportera la justice aux incroyants. Il n'appellera ni ne criera, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne rompra pas un roseau brisé et n'éteindra pas un flambeau qui brûle, jusqu'à ce qu'il ait répandu la justice et la victoire. Et les païens auront confiance en son nom. Chapitre 49. Le temple véritable de Dieu. La fête de la Pâque était proche, et il advint que quelques-uns des disciples de Jésus, qui étaient maçons, faisaient des travaux de réparation dans le temple. Jésus passa, et ils lui dirent, « Maître, vois-tu ces grands bâtiments et toutes les sortes de pierres qui sont là? L'œuvre de nos ancêtres n'est-elle pas si merveilleuse ?» Jésus dit, « Oui, c'est merveilleux, et les pierres sont bien jointes les unes aux autres. Mais le temps viendra où pas une seule pierre ne restera l'une sur l'autre, car l'ennemi s'emparera de la ville et du temple. Mais le vrai temple est le corps de l'homme dans lequel Dieu habite par l'Esprit. » Et quand ce temple sera détruit, en 3 jours, Dieu en rebâtira un plus beau encore. Mais celui-là ne peut pas être vu par l'œil humain.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. « Je suis le Christ de Dieu, le Fils du Père éternel, annoncé par le Dieu éternel et juste, à travers Isaïe et d'autres hommes et femmes justes. Je suis venu dans ce monde en tant que Jésus de Nazareth, non pour détruire, mais pour édifier, non pour effacer ce qui n'est pas acquitté, mais pour conduire tous les hommes hors du péché et pour les mener à celui qui m'a envoyé, au Père éternel. » Car tous les êtres spirituels, âmes et hommes, sont ses enfants. Mon nom est inscrit dans toutes les âmes, et toutes m'accepteront, moi, le Christ, et m'accueilleront au fond de leur cœur, parce que je suis leur Rédempteur et leur rédemption. Les païens m'accepteront et m'accueilleront aussi au fond de leur cœur, car nul ne peut aller au Père que par moi, le Christ, son Fils. Tout ce qui est terrestre disparaîtra, l'œuvre des ancêtres également. Car ce qui est matière, c'est-à-dire substance grossière, ne dure pas éternellement, mais seulement jusqu'à ce que la substance primordiale de la terre retourne dans l'être éternel qui est pur et de substance fine. De génération en génération, l'ennemi du bien met la main sur les bâtiments des hommes et détruit ce qu'ils estiment bon et précieux. Et ceci continuera jusqu'à ce que l'ennemi soit devenu un ami du bien. C'est alors que, selon la loi de Dieu, la transformation vers une vie plus fine et plus élevée pourra avoir lieu. Le vrai temple est le temple en chair et en os, le corps de l'homme, dans les cellules et dans l'âme duquel habite l'Esprit de Dieu. Et quand ce temple sera détruit, en 3 jours Dieu en rebâtira un plus beau encore, mais celui-là ne peut pas être vu par l'œil humain, signifie « Lorsque l'âme est séparée du corps, quand la mort frappe le corps terrestre, l'âme lumineuse surmonte en 3 jours les liens qui l'attachent encore à la terre, à l'attraction terrestre. Elle passe ensuite à travers les voiles qui séparent les plans de conscience les uns des autres, parce qu'en habit terrestre déjà, elle s'est débarrassée de ses enveloppes. Selon son niveau de conscience, elle habitera là où elle est conduite et où elle est attirée. De la même façon, durant ces 3 jours, pendant lesquels l'âme lumineuse se débarrasse des liens qui la rattachent encore à la terre, son vêtement spirituel changera également de forme et de couleur.
Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de l'Esprit-Saint, et que celui qui détruit un seul de ces temples sera lui-même détruit ?
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Chaque homme est un temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite dans chaque âme et dans chaque cellule du corps terrestre. Celui qui méprise son prochain, le temple de Dieu, méprise également son propre temple, et ainsi méprise Dieu. Car le comportement de l'homme envers son prochain témoigne aussi de son comportement envers Dieu. Chaque fois que l'on méprise son prochain, c'est-à-dire un temple de Dieu, c'est un péché contre l'Esprit Saint. L'homme qui tue son prochain détruit ainsi un temple de Dieu. L'âme de celui qui fut tué n'a plus la possibilité d'expier ou d'accomplir dans son corps terrestre ce qu'elle devait faire dans cette existence terrestre. L'homme qui tue son prochain, le temple de Dieu, ou le fait tuer, subira un sort identique ou similaire. La peur, la souffrance, l'épouvante et la mort viendront aussi sur lui. À l'heure de sa mort, il ne trouvera pas de paix, car l'âme dont il a tué le corps et qui ne lui a pas encore pardonné se tiendra devant lui. Il ressentira dans le corps de son âme ce que son prochain qu'il a tué ou fait tuer a souffert. Je le répète, chaque homme est un temple de l'Esprit Saint. Aussi est-il commandé à chaque homme de garder la pureté de son temple et de respecter celui de son prochain. Celui qui se tient à ce commandement ne devra pas souffrir, et son temple ne sera détruit ni par la maladie, ni par le besoin, ni par la force.
Et plusieurs docteurs de la loi, qui étaient là, essayèrent de lui tendre un piège en utilisant ses propres paroles, et dirent « Si tu rejettes les sacrifices des brebis, des bœufs et des oiseaux, pourquoi ce temple, qui est en rénovation depuis 46 ans, fut-il alors bâti pour Dieu par Salomon ? Et Jésus répondit en disant, « Il est écrit dans les prophètes, « Ma maison devrait être une maison de prière pour tous les peuples, pour les offrandes de louanges et de reconnaissance. Mais vous, vous en avez fait un abattoir et l'avez rempli d'atrocités. » Il est encore écrit, « Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom sera grand parmi les païens, et vous m'apporterez de l'encens avec une offrande pure. Mais vous en avez fait un lieu de désolation avec vos sacrifices sanglants, et vous n'employez l'encens que pour dissimuler l'odeur insupportable du sang. Je suis venu pour accomplir la loi, et non pour l'abolir. »
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Tant que l'homme n'est pas encore devenu lui-même le temple de la vie intérieure, dans lequel il pénètre pour vouer au grand un universel tout ce qu'il pense et fait, et pour lui faire l'offrande de son remerciement pour son existence terrestre, il a besoin de structures extérieures. Dans d'imposants édifices, qu'il appelle temple ou église, il accomplit des offrandes selon des rites extérieurs. Dans les temps anciens, il s'agissait de sacrifices sanglants. À l'époque actuelle, ce sont des rites, des cérémonies, des chants vides de sens et des processions. Même dans la génération actuelle, de telles coutumes extérieures, et en partie encore païennes, ne sont pas abolies et sont toujours pratiquées au nom du Seigneur. Pour le Père éternel et pour moi, le Christ, tout ceci est abominable. Le Dieu éternel, le Dieu d'Isaac et de Jacob, ne désire ni église pompeuse ni temple. Il souhaite que ses enfants soient les temples de l'Esprit-Saint, qu'ils se purifient et restent purs, et lui sacrifient leurs pensées et actions pécheresses, qu'ils se rassemblent dans une maison de prière ouverte à tous les hommes souhaitant prier, et pas uniquement à ceux qui se déclarent solidaires des gardiens d'un enseignement qui n'est plus le mien. L'homme qui enseigne la vérité et la vie n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Seul ferme les portes de ses églises et de ses temples celui qui propage son propre enseignement et non pas la vérité éternelle ouverte à tous, parce que la loi, la vérité même, est dans chaque âme, et parce que l'âme doit la retrouver pour redevenir en tant qu'être spirituel la loi éternelle. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des yeux pour contempler, contemple. L'homme qui s'exerce à la justice reconnaît le partisan des ténèbres qui se pare de mon nom, Christ, pour tromper les hommes et les séduire. Celui qui a appris à contempler ressent où s'écoule la vérité. Il se mettra du côté de la vérité et sera avec ceux qui s'efforcent de vivre d'après la vérité. De génération en génération, mon nom restera grand parmi les peuples, car de plus en plus nombreux seront les hommes et les femmes justes qui écraseront la tête du serpent perfide qui se prétend chrétien. Ce qui est donné de l'Esprit est vérité et subsistera. Tout ce qui est païen disparaîtra. Aussi, quand un autre soleil luira, moi, le Christ de Dieu, le Je suis, je serai consciemment élevé, car je serai devenu la conscience des hommes et le souverain du royaume de Dieu sur terre. Il n'y aura plus ni rite ni païen, et tous les hommes seront unis dans l'amour désintéressé. Leur vie sera consacrée parce qu'ils accompliront les lois de l'Éternel. Le mot « encens » désigne la vie consacrée de l'homme qui s'oriente sur Dieu l'Éternel. L'homme doit vouer sa vie terrestre à Dieu, ses sensations humaines, ses pensées, paroles et actes. Alors, il vivra d'un cœur pur en Dieu.
Ne savez-vous donc pas ce qui est écrit ? Il vaut mieux obéir que faire un sacrifice, et il vaut mieux écouter que brûler la graisse des béliers. Moi, le Seigneur, j'en ai assez de vos holocaustes et de vos offrandes sans valeur, car vos mains sont pleines de sang. Et n'est-il pas écrit, quelle est la vraie offrande ? Lavez-vous, purifiez-vous, et enlevez le mal de devant mes yeux. Arrêtez de faire le mal, et apprenez à faire le bien. Soyez justes envers les orphelins et les veuves, et envers tous ceux qui sont opprimés. C'est de cette façon que vous accomplirez la loi. Le jour viendra où tout ce qui est dans la cour extérieure et sert au sacrifice sanglant sera enlevé, et les fidèles au cœur pur adoreront l'Éternel en pureté et en vérité.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Tant que les âmes des hommes sont impures, leurs mains sont aussi tachées de sang. Ce que l'homme a semé en mal, en péché, dans son âme, constitue ses causes. Et ses actes qui le marquent sont en conséquence. De la façon dont il a semé, il se comportera dans sa vie terrestre et également après la mort de son corps, en tant qu'âme dans les plans de purification. Celui qui est assoiffé de sang continue à avoir soif de sang. Il ne cherche qu'à se venger et persiste à vouloir verser le sang de son prochain. Tous ceux qui veulent se venger sont des querelleurs ne reculant devant rien, pas même devant la vie de leur prochain. Dans leur folie, ils considèrent même comme honorable de verser le sang d'autrui et ne craignent pas de sacrifier des animaux en holocauste à l'Éternel. Chaque sacrifice sanglant est satanique et est une profanation de la vie issue de Dieu. C'est par de tels partisans vengeurs des ténèbres que les ténèbres veulent bafouer Dieu. Dieu, l'Éternel, souhaite que l'homme sacrifie son moi vil et charnel. Il l'adore, lui, l'Éternel, dans son cœur, par ses pensées, paroles et œuvres d'amour désintéressé. Les mots dans la cour extérieure désignent, entre autres, l'orientation des hommes sur l'extérieur et tout ce qui en a résulté, y compris ce qui concerne les sacrifices sanglants. Parce qu'il n'y aura plus qu'un seul peuple, le peuple du Christ de Dieu, toutes les cours extérieures qui symbolisent le monde disparaîtront. Le jour approche où tout ce qui est charnel et passionnel sera enlevé de la terre, car ce qui est annoncé commence à prendre forme. La terre se purifiera et la vie qu'elle porte se renouvellera, et le royaume de Dieu viendra sur terre vers les enfants de Dieu qui ont un cœur pur.
Et ils rétorquèrent, « Qui es-tu, toi qui veux abolir les offrandes et méprises la semence d'Abraham ? As-tu appris ce blasphème des Grecs et des Égyptiens ?» Et Jésus dit, « Avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Ils refusèrent de l'écouter, et quelques-uns d'entre eux dirent, « Il est possédé par un démon, » et d'autres dirent, « Il est fou. » Ils s'en allèrent et racontèrent tout aux prêtres et aux anciens, qui, furieux, dirent, « Il a blasphémé contre Dieu. »
Le Christ explique, rectifie, et approfondit la parole. L'homme qui s'oriente uniquement sur l'extérieur, qui parle le langage de ce monde et vit dans le monde, ne connaît ni la loi éternelle, ni le langage de la loi. Celui qui ne me reconnaît pas, et ne reconnaît pas non plus le Père qui m'a envoyé vers les hommes. Celui qui ne me reconnaît pas, ne comprend pas non plus mon langage, la loi, le « je suis ». Ce fut toujours ainsi, et aujourd'hui c'est encore la même chose. Seul l'homme qui s'efforce chaque jour de revenir à la vie juste, à Dieu, comprend le langage de la loi éternelle. Seul quelqu'un ayant encore en lui du démoniaque dit à son prochain qu'il est démoniaque. Ainsi, tous ceux qui vivaient une vie tournée sur l'extérieur et croyaient par conséquent que mes paroles étaient démoniaques, ne purent pas me comprendre, moi, le Christ en Jésus. Cependant, je suis le « je suis » en Dieu, mon Père, le premier contemplé et le premier né par lui. En lui, je fus contemplé avant Abraham. Je suis en Dieu et omniprésent dans les quatre attributs de Dieu. C'est ainsi que je suis une partie de l'héritage de tous les enfants de Dieu qui sont d'éternité en éternité. »